On accueille aussi notre traductrice, Orlane. Merci à elle d'être présente.
C'est quoi être traductrice aux escales un peu ? C'est quoi le...
Il y a un peu de l'adrénaline à chaque fois avant de commencer. C'est un peu stressant et tout. Mais moi j'ai fait des études de traduction, j'ai fait une licence en traduction et interprétation à la fac de Rennes. Et du coup je suis un peu habituée, là j'ai passé une semaine à traduire des conférences. Donc du coup on appelle ça interpréter dans le jargon de la traduction et de l'interprétariat. Et c'est super aussi de faire ça avec des artistes dans un milieu qui est hyper acceptant et hyper bienveillant aussi.
Vous faites ça avec d'autres festivals, d'autres artistes ou pas ?
Là, sur la semaine, j'étais avec une mobilisation militante. Voilà, donc je les aidais à traduire des conférences sur le thème de l'hydrologie. C'était très professionnel, on était à peu près une cinquantaine d'interprètes là-bas. Et voilà, c'était top.
Quelles sont les langues que vous parlez ?
Moi, je parle anglais, principalement, ça va être vers l'anglais et depuis l'anglais que j'interprète. Mais je parle aussi espagnol. Voilà.
Et qu'est-ce que cela consiste, les études d'interprète et de traductrice ?
Alors, pour l'interprétariat, c'est beaucoup d'entraînement. On va utiliser plusieurs techniques. Là, ça me fait penser par exemple au shadowing. Donc, c'est une technique où, par exemple, on va parler en même temps répéter ce que disent des orateurs, par exemple en anglais, et on répète directement en anglais pour d'abord entraîner notre cerveau à parler autant, à parler aussi vite et à parler dans cette langue. Et entraîner la bouche aussi, puisque ça demande d'utiliser beaucoup de muscles. Et après, on a plusieurs types d'exercices où on va pouvoir justement s'entraîner sur des vidéos, des discours. Et il existe beaucoup de sites d'ailleurs qui permettent de faire ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à chercher ça sur internet.
Quelle est la personne que vous avez été la plus contente de traduire ?
Ah, je pense que c'était cette semaine. C'était plus un thème que j'ai beaucoup aimé traduire. C'était pour moi très important, c'était sur la pollution des pesticides, la pollution de l'eau. Et ensuite, ça parlait des solutions, c'était une table ronde où on avait 8 intervenants, et dont des intervenants d'un peu partout, d'Espagne, et l'après-midi, on avait aussi des tables rondes avec des personnes d'Amérique latine. Surtout ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, d'avoir des points de vue mondiaux, globaux, et de vraiment se rendre compte qu'on est un maillon important dans la chaîne. Justement, puisqu'on permet de donner accès à un grand nombre de personnes qui ne parlent pas français à des informations qui sont très importantes et qui sont même vitales.
Quels sont les débouchés possibles ou les débouchés vers lesquels vous aimeriez vous orienter ?
Alors moi, j'ai pas décidé de m'orienter vers l'interprétariat, mais je l'utilise dans le monde du volontariat, parce que je sais que c'est compliqué de trouver des traducteurs ou des interprètes. Moi je me destine plutôt à être guide de montagne ou guide dans les milieux dits naturels dans plusieurs langues.
D'accord.
Là je vais commencer une formation multilingue sur ce thème là.
D'accord.
Est-ce que par exemple il y a des petits moyens, des petits tips pour améliorer par exemple son anglais qui sont assez bénéfiques ?
Parler. Franchement, moi j'ai beaucoup regardé Netflix, ça m'a beaucoup aidé pendant la période Covid à devenir plus à l'aise avec l'écoute de la langue. Mais pour être à l'aise à l'oral, il faut pratiquer. Et donc je dirais que mon meilleur conseil, ce serait d'aller directement dans un pays étranger, même si c'est difficile de le faire quand on n'a pas les moyens, quand on est plus jeune. Mais c'est possible avec assez peu de moyens. Par le biais de la solidarité par exemple, de rencontrer des gens même juste dans vos villes à vous et de parler avec eux. Et je pense que c'est ça la meilleure façon d'améliorer son anglais et d'élargir ses horizons aussi.
Par quel moyen de traduction préférez-vous et quelle est votre technique ? C'est plutôt écouter, mémoriser ou alors essayer de noter par exemple des mots-clés, noter la phrase en entier ?
Alors la phrase en entier, c'est un peu impossible, ça dépend le type de traduction qu'on fait. Je sais qu'il y a différents types, il va y avoir la simultanée, c'est-à-dire que quand la personne parle, on traduit directement. Donc en fait la personne parle en continu et nous on traduit en continu, ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc souvent on est à des binômes et on se passe le relais toutes les 15 minutes parce que c'est très fatigant pour le cerveau.
Comme pour le 20h un peu.
Quand
on entend parler dessus.
Hey, Ouais, exactement ça.
Et le fait d'écouter, parce qu'on entend beaucoup justement par exemple, des traductions de chefs d'État, et le fait, c'est facile d'écouter et de parler en même temps, ça fait un cerveau un peu divisé en deux.
C'est ça exactement. En fait, c'est vraiment c'est beaucoup d'entraînement, parce qu'on n'est pas habitué, même quand on est bilingue de naissance, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et c'est de la pratique, beaucoup de pratique. Et quand on se retrouve face à quelqu'un qui dit par exemple des mots qu'on comprend pas, en fait tout le fond c'est de comprendre ce qui est dit en face et ensuite retranscrire le sens. C'est ça l'important, c'est pas de donner mot à mot ce qui vient de se dire. Et donc parfois quand on se retrouve à des termes très compliqués ou des explications sur l'hydrologie qui sont impossibles à comprendre pour quelqu'un de banal comme moi, là ça peut devenir compliqué. Mais dans ces environnements-là, en tout cas, par exemple, là, la radio sur les festivals et tout ça, c'est plutôt assez simple. Mais je dirais que oui, c'est compliqué au début et on s'adapte au fait que la personne parle et qu'on a un décalage de quelques secondes. Mais c'est toujours fatigant, on a toujours un peu de nourriture sur nous au cas où. Là, j'en ai pas, mais quand on interprète longtemps, 2-3 heures, là, on mange, on fait des pauses, on part marcher, on boit. Voilà, ça demande beaucoup de ressources. Cérébrale.
Est-ce que vous êtes stressé parfois d'interpréter des personnes et si oui, comment gérez-vous ce stress ?
Oui, je pense que c'est un peu comme tous les interprètes. À chaque fois avant, on est là, on gesticule beaucoup, on bouge, on essaie d'évacuer le stress. Le plus facile, je dirais, pour se déstresser, c'est d'avoir les bons réflexes, de savoir ce qui nous aide à nous calmer. Moi, ça va être plutôt le souffle, bouger le corps, laisser sortir un peu la pression. Et puis le plus simple encore, c'est d'avoir des gens autour de nous qui sont bienveillants et de pouvoir juste papoter avec eux, rigoler. Et là, on oublie directement, quand on a un bon binôme, qu'on va passer 3 heures à interpréter et que si on n'est pas là, ça ne marchera pas. Je pense que c'est plutôt ça la peur qu'il y a. C'est si je le fais pas, personne va le faire à ma place. Et voilà.
Est-ce que vous avez un peu peur que la technologie vous remplace? Parce qu'on voit parfois dans les discours que c'est directement traduit par une technologie. Est-ce que vous avez peur de ça?
C'est un vrai sujet. Hein. Dans mes études, on en a beaucoup entendu parler. On avait pas mal de profs qui eux-mêmes disaient qu'on était voué à disparaître. Mais je pense qu'il y aura toujours une part de l'ordinateur qui pourra pas traduire correctement, interpréter plutôt correctement ce qui se dit en direct, puisqu'il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de sous-entendus qui ne peuvent pas se traduire par un ordinateur. Et pour ça,
ou d'expressions aussi des fois.
Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, des expressions idiomatiques qui dans une langue veulent dire quelque chose mais dans une autre langue n'ont aucun sens. Et c'est là que l'ordinateur a ses limites pour moi. Et après, c'est un outil qu'on utilise, nous, hein, dans la traduction, qui va être plutôt sur l'écrit. On utilise de la traduction assistée par ordinateur. Là, ça va se faire plutôt avec un ordinateur qui enregistre en fait les traductions qu'on a faites avant. Et donc, notre travail est plutôt facilité par l'ordinateur. Mais après, oui, il y a le sujet de DeepL, le sujet de tous les traducteurs en ligne automatique, qui est aussi d'actualité dans nos facs, en tout cas. Puisque pendant les examens, certaines personnes les utilisent, voilà, mais ça se voit.
On entend beaucoup dire que pour maîtriser une langue, il faut soit avoir vécu dans un autre pays, beaucoup voyager, ce ne sont que des stéréotypes, ou alors ce sont en école ou même pour devenir bilingue dans une langue, il faut juste du travail.
Pour moi, c'est vraiment important d'avoir vécu au moins avec des personnes qui parlent la langue cible, donc la langue vers laquelle on veut traduire, ou la langue source, la langue depuis laquelle on traduit. J'ai vécu un an en Irlande, personnellement, et je sais que tous mes amis qui sont les meilleurs interprètes et traducteurs que je connaisse ont tous vécu à l'étranger ou ont grandi au moins avec des personnes qui venaient de l'étranger, qui leur ont amené cet amour de la langue aussi. Et je pense que ça semble un peu compliqué de se dire waouh, mais partir dans un autre pays, ça fait peur. Mais pourtant, c'est énormément d'opportunités et ça permet beaucoup de grandir et de se rendre compte qu'on est capable de tout faire. Et ça, c'est, je pense que c'est très important dans le voyage.
Justement, est-ce que quand vous êtes arrivé en Irlande, vous avez des bases d'anglais avec le collège, l'école primaire, mais est-ce que vous avez eu un peu peur de ne pas comprendre ou de mal interpréter ce que pouvaient dire les locaux?
Au début, c'est bizarre, hein, parce que déjà, on se retrouve dans un pays qui a un accent particulier, disons.
Oui.
Voilà, ça peut jouer. Et puis, des expressions qu'on ne connaît pas spécialement. On est surtout habitué à l'anglais américain, à l'anglais britannique. Et donc, quand je suis arrivée, oui, j'avais cette petite peur-là. Après, à ce moment-là, j'avais déjà fait un an d'études de langue, donc j'étais assez renforcée. Mais oui, je pense que ça, c'est important d'aller au-delà de la peur.